Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Paru en 2018 aux éditions Zone, Sorcière, la puissance invaincue des femmes est un essai féministe de la journaliste Mona Chollet. Le livre part du retour contemporain de la figure de la sorcière dans les imaginaires militants et culturels pour examiner son histoire politique. Chollet analyse les chasses menées en Europe, surtout entre le XVe et le XVIIe siècle, non comme une survivance isolée de superstitions médiévales, mais comme une persécution largement dirigée contre les femmes. Son propos relie cette histoire aux normes qui continuent de peser sur les femmes: dépendance conjugale, maternité obligatoire, culte de la jeunesse et disqualification de celles qui vivent hors des rôles attendus. L'essai ne cherche pas à établir une continuité mécanique entre chaque procès ancien et chaque situation actuelle. Il étudie plutôt la persistance de représentations qui rendent certaines existences féminines suspectes ou marginales. La sorcière devient ainsi une figure critique, à la fois victime historique et symbole possible de refus des dominations. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les chasses aux sorcières comme violence organisée contre les femmes. Chollet replace les chasses aux sorcières dans leur contexte historique afin de contester plusieurs images simplificatrices. Leur phase la plus meurtrière se situe principalement à la Renaissance, entre le XVe et le XVIIe siècle, et non dans un Moyen-Âge indistinct. Elle ne relève pas seulement de peurs populaires, spontanés tribunaux, autorités religieuses. Juristes et élites lettrées ont participé à la production et à la validation des accusations. Cette précision modifie le sens politique de cet épisode. Il ne suffit plus de l'opposer à une modernité rationnelle et émancipatrice, car des institutions qui se voulaient savantes ont aussi contribué à légitimer la persécution. Les femmes formaient la grande majorité des personnes accusées et condamnées. Chollet y voit donc une guerre sociale et symbolique contre des femmes jugées difficiles à contrôler. Le livre ne réduit pas les victimes à une catégorie homogène ni ne prétend que toute accusation procédait du même motif. Il montre cependant que le sexe, la position familiale, la pauvreté, la réputation et la vulnérabilité judiciaire se combinaient fréquemment. Cette lecture permet de comprendre les chasses comme un phénomène de pouvoir. Elles ont puni des personnes concrètes tout en diffusant une menace collective. Elles rappelaient aux autres femmes le prix potentiel de la désobéissance, de la parole autonome ou de la différence. Deuxièmement, veuvage et célibat, la suspicion envers la femme indépendante. Un axe central de l'essai concerne les femmes qui ne sont pas placées sous une autorité masculine directe. Les veuves et les célibataires apparaissent souvent comme des figures particulièrement exposées à la méfiance sociale dans les univers étudiés. Une femme disposant de son logement, de biens modestes, de savoir pratique ou de relations propres pouvait déroger au modèle qui associait respectabilité féminine et tutelle d'un père ou d'un mari. Chollet ne soutient pas que toute indépendance conduisait à une accusation. Elle analyse plutôt un mécanisme de suspicion. Quand une femme échappe au cadre ordinaire de dépendance, son autonomie peut être interprétée comme une anomalie morale. Cette question historique éclaire des représentations actuelles de la femme seule, ambitieuse, peu conciliante ou indifférente au couple. Le jugement moderne prend rarement la forme judiciaire des procès anciens, mais il peut se manifester par la caricature, la culpabilisation ou la présentation de son choix comme un échec personnel. L'intérêt de cette partie réside dans le lien établi entre organisation matérielle de la vie et normes symboliques. La liberté ne dépend pas seulement de déclarations de principe, elle suppose de pouvoir habiter, travailler, vieillir et décider sans devoir justifier sans cesse son existence. La sorcière incarne alors moins un personnage magique qu'une femme dont la capacité à se définir elle-même dérange un ordre social hiérarchisé. Troisièmement, maternité, fécondité et contrôle des trajectoires féminines, Chollet examine la place accordée aux femmes sans enfants et aux pratiques de maîtrise de la fécondité. Elle montre que les chasses ont contribué à durcir la réprobation envers celles qui semblaient se soustraire à une destination maternelle. Le sujet ne consiste pas à idéaliser le passé, ni à nier le désir réel de maternité de nombreuses femmes. Il consiste à distinguer le choix de devenir mère de l'obligation sociale de faire de ce rôle le centre exclusif de toute vie féminine. Dans cette perspective, les représentations de la femme sans enfant révèlent une difficulté persistante à accepter une existence féminine orientée vers des projets, des liens ou des activités autres que la reproduction. L'essai met aussi en relation cette pression avec la distribution inégale du travail domestique et éducatif. Dans les sociétés contemporaines, la maternité demeure souvent associée à une responsabilité intense pour le bien-être, la réussite et la protection des enfants, avec des conséquences professionnelles et personnelles plus lourdes pour les femmes. Chollet souligne ainsi que les normes peuvent agir sans contrainte légale directe, elles passent par les attentes familiales, les récits culturels et le sentiment de culpabilité. Cette analyse donne une portée politique à des expériences souvent traitées comme privées. elle invite à interroger les conditions qui rendent un choix réellement libre, notamment lorsque la reconnaissance sociale dépend de la conformité à un modèle maternel valorisé. Quatrièmement, le vieillissement féminin et la fabrication de la femme indésirable, la femme âgée constitue le troisième grand type étudié par Cholet. Dans l'imagerie de la sorcière, les traits de la vieillesse féminine ont été rendus effrayants, grotesques ou menaçants. Cette construction importe parce qu'elle associe la perte de jeunesse à une perte de valeur, surtout lorsque la femme ne correspond plus aux attentes de séduction, de disponibilité ou de service. L'autrice met en évidence le contraste entre la manière dont le vieillissement des hommes peut être lié à l'expérience, au prestige ou à l'autorité, et celle dont le vieillissement féminin est fréquemment présenté comme une déchéance. Cette dissymétrie aide à comprendre la force des injonctions contemporaines à paraître jeune. Elle ne relève pas uniquement de préférences individuelles, mais aussi de la peur sociale de devenir invisible ou méprisée. Le livre ne condamne pas les pratiques de soins ou le goût de la beauté. Son enjeu est de questionner un système où l'apparence juvénile devient une condition informelle de légitimité. En reliant l'image de la vieille sorcière aux représentations médiatiques et ordinaires, Cholet élargit la réflexion sur la discrimination liée à l'âge. Elle rappelle que défendre l'autonomie des femmes implique aussi de reconnaître pleinement celle dont le corps le désire. La parole ou le mode de vie ne correspondent plus aux critères dominants de féminité. En dernier lieu, savoir, médecine et nature critique d'une vision dominatrice du monde. Dans sa dernière orientation majeure, Sorcière relie la persécution des femmes à une transformation plus vaste du rapport au savoir et à la nature. Cholet critique une conception héritée de la modernité occidentale qui valorise la maîtrise, la séparation et la conquête-séparation du corps et de l'esprit, de la raison et de l'émotion, de l'humain et du vivant. Les femmes associées aux soins, aux remèdes, à la naissance ou aux savoirs locaux ont pu être disqualifiées au profit de professions et d'institutions dominées par les hommes. Le livre ne propose pas de rejeter la science ni de substituer des croyances sans examen à la médecine. Il interroge les rapports de pouvoir qui déterminent quels savoirs sont reconnus, qui peut les exercer et quels besoins sont jugés dignes d'attention. Cette nuance est essentielle, la critique vise moins la rationalité que sa conversion en autorité froide, exclusive et prétendument neutre. Cholet met en parallèle cette logique de domination des femmes avec l'exploitation de la nature, ce qui donne au livre une dimension écologiste. La figure de la sorcière permet alors de penser une autre relation au monde, attentive à l'interdépendance, au corps et aux expériences minorées. Cette partie distingue l'ouvrage de nombreux essais limités aux seules normes familiales ou médiatiques, en inscrivant les questions féministes dans une critique plus large des structures de savoir et de pouvoir. En conclusion, Sorcière convient aux lectrices et lecteurs qui souhaitent aborder le féminisme par une enquête historique accessible, sans se limiter à une chronologie des procès ni à un manifeste abstrait. Il sera particulièrement utile aux personnes intéressées par les normes liées au couple, à la maternité, au vieillissement, au corps et à la place des femmes dans la production des savoirs. Sa lecture fournit des repères pour identifier comment des jugements apparemment ordinaires peuvent prolonger des hiérarchies anciennes, tout en évitant de confondre mécaniquement passé et présent. Le livre offre aussi un cadre pour discuter de liberté féminine en termes matériels et culturels. Pouvoir choisir sa vie suppose non seulement des droits, mais aussi la fin de la suspicion qui frappe certaines trajectoires. Par rapport à des ouvrages uniquement centrés sur l'histoire des chasses, Mona Cholet insiste davantage sur leur résonance dans les représentations contemporaines. Par rapport à des essais féministes centrés sur un seul enjeu, elle articule indépendance, non-maternité, vieillesse et écologie dans une même réflexion sur la normalisation. Cette amplitude fait sa singularité. Le style mobilise des références historiques et culturelles afin de rendre l'argumentation lisible à un large public. Certaines généralisations peuvent appeler discussion, comme dans tout essai engagé, mais elles ont précisément pour fonction de rendre visibles des questions souvent naturalisées. Sorcière se distingue enfin par son refus de réduire la sorcière à une image décorative, elle en fait un outil critique pour examiner les exclusions et imaginer des formes de reconnaissance plus large. Si vous souhaitez soutenir Mona Cholet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.